الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، donc on va terminer inshallah cette soirée avec un dernier rappel de Cheikh Abdelrazak al-Badr hafidhahullah ta'ala, qui est enseignant à la mosquée du prophète alayhi salatu wasalam, un savant, fils de savant, le fils de Cheikh al-Mahsi al-Abbad hafidhahullah ta'ala. Et après avoir fait un rappel sur la mort, et puis un rappel ayant pour titre le Coran est la source du bonheur, on va s'attacher à étudier un sujet très important en islam, c'est la purification de l'âme. Ce que les ulama appellent en arabe « tazkiyatun nafs ». Et le cheikh, il commence son cours en disant « Hadihi ayyuhal ikhwa, waqfatun ma'a qawlillahi subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man tazakka. Fafi hadihi l'aya bayan anna man tazakka aflaha fi dunyahu wa ukhrah. » والفلاح هو حيازة الخير في الدنيا والآخرة. Donc le cheikh حفظه الله تعالى, il commence son rappel en disant qu'il y a pour titre la purification du cœur, la purification de l'âme, et il dit ceci est une pause et un arrêt pour étudier la parole d'Allah, dont la traduction du sens est, et c'est un verset que je pense vous connaissez tous, sourate Al-A'la verset 14, réussit certes celui qui se purifie. Donc, quelle est cette purification de l'âme ici? Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, il y a donc dans ce verset que celui qui se purifie réussit dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et puis, dans la définition de Al-Falah, la réussite. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas une personne qui n'aspire pas à la réussite, qui n'aspire pas au bonheur. Maintenant, il convient de savoir, afin de l'obtenir, quelle est cette réussite? Quel est ce bonheur? Quel est ce falah en arabe? Il a donné une définition que vous pouvez retenir, il a dit c'est la détention ou la possession, si vous voulez, du bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Puis il rapporte, il dit وَهَدِي الْآيَ نَظِيرُهَا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فِي سُورَةِ الشَّمْسِ مُقْسِمًا عَلَى ذَلِكَ بِآيَاتِهِ الْعِظَامِ وَمَخْلُوقَاتِهِ الْجِسَامِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Donc c'est le verset de sourate Shams, verset 1 à 10. On va les traduire. Il dit un verset similaire à celui précité, c'est-à-dire celui précité c'est celui de sourate Al-A'la, non. Et maintenant de sourate Shams, où Allah subhanahu wa ta'ala jure à ce propos par ses immenses signes et ses énormes créatures. Nous ne pouvons jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah ici, il jure à ce propos par ses immenses signes et ses énormes créatures. Il dit par le soleil, la traduction du sens en tout cas, par le soleil et par sa clarté, et par la lune quand elle le suit, et par le jour quand il l'éclaire, et par la nuit quand elle l'enveloppe, et par le ciel et celui qui l'a construit, et par la terre et celui qui l'a étendue, et par l'âme. Et celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété a réussi certes celui qui l'a purifié. C'est-à-dire qui purifie quoi? Qui purifie l'âme. Et perdu certes celui qui la corrompt. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire dans un instant, Inch'Allah, le sens de corrompre l'âme. Puis le cheikh, il dit, فأقسم الله عز وجل بأكثر من عشر آيات عظيمة ومخلوقات جسيمة أن من زكى نفسه أفلح ومن دساها خاب وخسر. ومعنى دسها أي غمرها وحقرها وطمرها بإيقاعها في الخسائس وحقائر الذنوب والمعاصي والآثام. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Shams ici a juré par plus de 10 immenses signes et immenses créatures que celui qui purifie son âme a réussi. Encore une fois, par rapport à tout à l'heure, on lit peut-être souvent sourate Shams, on la récite peut-être souvent. Quel est le sens des versets? Le sens il est là. Allah a juré par plus de 10 immenses signes et immenses créatures que celui qui purifie son âme a réussi et celui qui la corrompt a perdu. Et le sens de, en arabe ici, de saha, corrompt, est qu'il l'avilie, qu'il la plonge et la fait disparaître en la faisant tomber dans les choses basses, ignobles, dans les péchés et les désobéissances. Puis Cheikh, il dit, et ça c'est pour attirer notre attention, il dit, فَتَسْكَتُ النَّفْسِ أَمْرٌ عَظِيمٌ. Il vient de le prouver d'ailleurs. ينبغي على المسلم أن يعنى به عناية دقيقة وفي هذا الباب أيها الإخوة أشير على عجل إلى بعض القواعد والضوابط والأصول المهمة في باب تزكية النفس أذكرها باختصار وبدون إطالة. Il dit donc le cheikh, la purification de l'âme est donc d'une grande importance. C'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi ce sujet. Et il incombe aux musulmans de s'en acquitter de manière précise. À ce sujet, chers frères, j'indique de ce de manière concise, donc on va essayer que ce soit pas trop long parce qu'il est déjà très tard, certains fondements et conditions et règles importants en ce qui concerne la purification de l'âme. Je les cite de manière résumée et concise, le cheikh il dit. Mais il n'y en a pas beaucoup, on va essayer de les retenir ensemble, inshallah. Al-qa'idatul oula, la première règle. At-tazkiyatu biyadillah wa lan yatazakka illa man zakkahu Allah. J'ai redit la première règle, la purification est détenue par Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne se purifiera que celui qu'Allah purifie subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh il dit fal amru lillahi min qabl wa min ba'd. قال الله تعالى بل الله يزكي من يشاء وقال جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء وقال جل وعلا ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. Ici, la première règle, c'était donc la purification est détenue par Allah et ne se purifiera que celui qu'Allah purifie. L'affaire revient donc à Allah avant et après, subhanahu wa ta'ala. Puis c'est un verset dont la traduction du sens est « Mais c'est Allah qui purifie qui il veut. » Surat An-Nisa, verset 49. Il y a un autre « Et nul c'était la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde. » Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. « Nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. » Mais Allah purifie qui il veut et Allah est audient et omniscient. Surat An-Nur, verset 21. Et puis, mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés. Ceux-là sont bien dirigés. C'est là en effet une grâce d'Allah et un bienfait. Surat Al-Hujurat, verset 7, les appartements en français. Ce fondement nous amène au deuxième qui est lié au premier. Donc si quelqu'un vous demande c'est quoi tes yeux neufs, vous savez répondre, la purification de l'âme. Ça fait citer des versets de Surat Shams. Vous savez citer les versets de Surat Al-A'la. Vous savez me donner des règles vis-à-vis de la purification de l'âme et de lui dire la première règle qu'il faut connaître, c'est quoi? C'est que la purification, elle est... Vous êtes là, vous n'êtes pas là. Hein? Voilà, c'est ça. Et Allah purifie qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Et ça amène à la deuxième règle, qui est quoi? Al-Qa'idatu Thaniya. Ahamiyatu Dua fi babi tazkiyat al-Nafs. Fa'idha kanat al-Tazkiya biyadillah. ولا متزكي الى الله الا من زكاه الله فما احوج العبد اشد افتقاره الى ربي سبحانه وتعالى بان يزكيه والدعاء كما قيل مفتاح كل خير في الدنيا والاخره. Cheikh dit la deuxième règle qui découle de la première. On a dit que c'est Allah qui détient la purification, Allah qui purifie qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce qu'il faut faire évidemment? Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala. L'importance de l'invocation dans la purification de l'âme. Si Allah détient la purification de l'âme et que ne peut se purifier que celui qu'Allah purifie, grand est alors le besoin du serviteur envers son Seigneur. Et grande est sa dépendance et grand est son besoin qu'Allah le purifie. Et l'invocation, comme il est dit, c'est la clé de tout bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. L'importance de dua. Et c'est quelque chose que des fois on peut, surtout qu'on n'a pas beaucoup de science, etc., qu'on peut négliger cette dua, et l'adhkar, et dua. الشيخ يلدي وفي هذا الباب ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه سبتخ دعاء كسرت نطخ فكنا إكش فكمند vivement d'étudier d'apprendre par cœur. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Il dit donc, et à ce sujet il a été rapporté dans l'authentique de Muslim dans le hadith de Zayd ibn Arqam que le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit dans son invocation, « Oh Allah, inspire à mon âme sa piété. » C'est qui dit ça? Ar-Rasoul, alayhi sallallahu alayhi. Qu'est-ce que nous on doit dire? Hein? « Oh Allah, inspire à mon âme sa piété et purifie-la. Tu es le meilleur qui la purifie, tu es son protecteur et son maître. » Et c'est un hadith qui est rapporté par Muslim, hadith numéro 2722, si vous voulez la référence. Et c'est dans le chapitre justement de l'invocation et de la supplication et du repentir et de la demande de pardon, dans Sahih Muslim. Donc la première règle, c'était quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient quoi? La purification des âmes. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il purifie? Qui il veut subhanahu wa ta'ala? La deuxième règle qui découle de ça, c'est quoi? Eh bien, on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la dua, c'est quoi la clé de tout bien dans ce bas monde et dans l'au-delà? C'est facile à retenir. Troisième règle. Hein? Si je vais trop vite, vous le dites. Hein? أساس تزكية النفوس وعماد بنائها توحيد الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه التزكية والقاعدة التي عليه تقوم. وهو لشجرة التزكية بمثابة الأصول للأشجار، كما قال الله تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فشجرة التزكية تقوم على التوحيد، وإذا انثلم التوحيد لا زكاة، كما أن الشجرة لا قيام لها بدون أصلها. ولهذا جاء عن عدد من المفسرين من الصحابة والتابعين في معنى قوله تعالى: قد أفلح من تزكى، وقوله: قد أفلح من زكاها، وقوله: الذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يقولون لا إله إلا الله، أي لا يوحدون الله. وذلك لأن توحيد الله سبحانه وتعالى هو الأصل الذي تبنى عليه التزكية. فإذا فقد التوحيد لا توجد زكاة في العبد، وأعماله كلها تذهب هباء منثورا، لأن الشرك محبط للأعمال مبطل لها. Troisième règle parmi les règles de la purification de l'âme, c'est quoi? C'est la base dans la purification de l'âme et le pilier de sa construction, c'est at-tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'unicité est la base de la purification de l'âme. Et il est pour l'arbre de la purification ce que sont les racines pour l'arbre. Et il donne un verset du Coran qui illustre ça. Il dit dans Surat Ibrahim, verset 24: N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre? C'est quoi cette parole? La ilaha illallah. Un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel. Puis Cheikh dit l'ombre de la purification. Ou pardon, l'arbre de la purification se base sur l'unicité. Si l'unicité est ébréchée, il n'y a pas de purification, comme l'arbre ne peut se tenir debout sans racine. Et c'est pour cela qu'il a été rapporté d'un nombre d'exégètes du Coran, du ulama du tafsir, que le sens de « réussit certes celui qui se purifie », c'est quoi ce sens-là? Et « a réussi certes celui qui la purifie », qu'est-ce que ça veut dire aussi? Et le sens de « et qui ne s'équitte pas de la zakah » et ne croit pas en l'au-delà, mais c'est-à-dire quoi? Ils ne disent pas « la ilaha illallah ». C'est-à-dire, ils ne vouent pas, hein, on avait fait il y a quelques mois ici dans cette mosquée, un cours sur le hadith de Djibril. Vous vous souvenez, pour les frères qui étaient là, hein, et on avait expliqué en détail ce que ça veut dire « la ilaha illallah ». C'est-à-dire, ils ne vouent pas une adoration exclusive à Allah. Hein? Ils ne disent pas « la ilaha illallah », c'est-à-dire, ils ne vouent pas une adoration exclusive à Allah. Car l'unicité d'Allah est la base sur laquelle se construit cette purification. Pourquoi il a dit ça, le shir? Parce que « la ilaha illallah », qu'est-ce que ça veut dire? « La ma'bouda bihaqqin illallah subhanahu wa ta'ala ». Nul n'est en droit d'être adoré ou à part Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, « la ilaha illallah ». Ce n'est pas comme dans certaines traductions, il n'y a de divinité que Dieu. Hein? La ma'bouda bihaq ila Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh, il dit quoi ici? C'est un point important. Il dit: si l'unicité est manquante, il n'y a pas de pureté dans le serviteur. Et ses actions partent toutes en poussière éparpillée, car l'association Allah, le shirk, annule toutes les actions. Qui connaît un verset du Coran par rapport à ça? Hein? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Hein? C'est pour ça que le cheikh, il a dit quoi ici? Il a dit: les actions partent toutes en poussière et éparpillées, le haba' al-manthour. Car l'association Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ça annule toutes les actions. Wal'adhu billah. Donc après la première règle, la deuxième, la troisième, hein, on a quoi là? La quatrième règle. Il dit le qa'idatu al-rabi'a, parmi les règles de la purification de l'âme: le Qur'an al-Karim, huwa manba'u al-tazkiya wa ma'inu al-ladhi la yandab. Et ça, c'est ce qu'on vient de voir, subhanallah, dans le cours d'avant, qui était quoi? Le Coran est la source du bonheur. Hein, vous voyez que tous les textes, ils vont ensemble. Et tous les, hein, toutes les paroles de ulama, elles vont ensemble. La quatrième règle, eh bien c'est quoi? Le noble Coran est la source de la purification qui ne tarit jamais. وَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ مُرْتَبِتًا بِهَذَا الْقُرْآنِ قِرَاءَةً وَتَدَبُّرًا وَعَمَلًا فَزَ مِنَ التَّزْكِيَةِ بِأَعْظَمِ نَصِيبٍ. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فبتلاوة آيات الله جل وعلا على الناس تزكى النفوس. فالقرآن هو كتاب التزكية ومنبعها. وكلما كان العبد قريبا من هذا القرآن حاز من التزكية بحسب قربه من كتاب الله عز وجل. Et ça rejoint l'importance du Coran tout à l'heure, et que le Coran C'est ça la source du bonheur. Le noble Coran est la source de la purification qui ne tarit pas. Autant le serviteur est attaché à ce Coran en le récitant, le méditant et en le mettant en pratique, autant il réussira dans cette purification. C'est-à-dire que c'est proportionnel. Au plus, le serviteur est attaché à ce Coran en le récitant, en le méditant et en le mettant en pratique, comme on a vu tout à l'heure. Famani taba'a hudaï. Vous vous souvenez ou pas? C'est de suivre le Coran, de mettre en application. Autant il réussira dans cette purification. Et puis, il cite un verset dont la traduction du sens est « Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes qui leur récite ces versets. » Écoutez, « qu'il leur récite ces versets, les purifie. » Et la suite du verset, c'est « le renseigne le livre et la sagesse. » Surat Ali Imran, verset 164. Puis le shir, il dit, il termine cette quatrième règle en disant « En récitant les versets d'Allah aux gens, les âmes se purifient. » Le Coran est donc le livre de la purification et sa source. Au plus le serviteur est proche du Coran, eh bien au plus il obtiendra de quoi? De la purification en fonction de sa proximité par rapport au Coran. Et le contraire c'est quoi? Au plus il sera loin du Coran. Eh bien, et vice versa comme on dit, d'accord? Cinquième règle parmi les règles de la purification de l'âme. لا زكاة للعبد إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. Donc la première, c'était quoi? C'est, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah qui détient la purification et il purifie subhanahu wa ta'ala qui il veut. Qu'est-ce que ça amène? Ad-du'a, le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le du'a c'est la clé de tout bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Troisième règle, tawhid, c'est la base. Quatrième, Coran. Vous pouvez les retenir de manière très succincte comme ça. Et maintenant la cinquième, c'est quoi? C'est le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc, il n'y a pas de pureté pour le serviteur sans le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu veux? Tu purifies ton âme et toi tu ne suis pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَأَمْرُ تَزْكِيَةِ النَّفْسِ مُسَلَّمٌ لِلرُّسُلِ عَلَيْهِمُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ فَهُمْ أَئِمَّةُ الْمُتَزَكِّينَ وَقُدْوَةُ عِبَادِ اللَّهِ قَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي شَأْنِ إِمَامِ الْمُرْسَلِينَ وخاتمهم وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Cheikh il dit la purification des âmes des messagers عليهم الصلاة والسلام elle va de soi. Ils sont les imams, les guides des purifiés et l'exemple à suivre pour tous les serviteurs d'Allah. La traduction du sens de la parole d'Allah dit concernant l'imam des messagers et le maître de tous les fils d'Adam, alayhi salatu wassalam. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Surat Al-Ahzab, verset 21. Puis le shaykh, il continue ce point-là en disant « Wa fi hada al-bab aqul, kayfa yuramu al-wusul ila al-tazkiyah wal-qaboul bighayri tiba' al-rasul alayhi salatu wassalam. هذا محال كيف يطلب الإنسان نفسه تزكية دون أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام وقد أعطانا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قاعدة جامعة وضابطة نافعة فقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Il dit, Cheikh, et à ce sujet, je dis, comment peut-on atteindre la purification et l'acceptation sans le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? C'est impossible. Vous allez me dire, mais ça c'est logique. Mais combien de gens ils revendiquent la purification de l'âme et ils cherchent dans des voies innovées autres que la voie du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Comment l'individu peut désirer pour lui-même la purification sans le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Or, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné une règle qui est générique et utile. Et c'est un hadith que vous retrouvez dans l'Arba' al-Nawawiyya, pour les frères qui ont mémorisé l'Arba' al-Nawawiyya. Il y a deux versions de ce hadith. On va les rapporter dans un instant. Je traduis le hadith. C'est lui qui fait une action, sans qu'elle ne soit légiférée, son action est rejetée. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. L'imam Nawawi rahimahullah a dit, qala ahlul arabiyya radd bima'na mardoud, ghir mu'taddin bih. Il n'est pas considéré. Son action elle est rejetée. Mais regardez cette version-là, elle dit, même quoi? Amila, celui qui fait. Alors il y a quelqu'un qui peut dire, ouais, mais moi, je Moi, c'est moi qui innové. Les gens, ils font, mais moi, c'est moi qui innové. Moi, je ne rentre pas dans ce hadith. Il y a une autre version du hadith. Man ahdatha fi amrina hada. Celui qui innove, et l'autre hadith, man amila. C'est-à-dire que celui qui innove et les gens aussi qui pratiquent ça après, eh bien, ils rentrent dans ce hadith. Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd. L'autre hadith, celui qui fait, même si ce n'est pas lui le premier qui l'a fait. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. C'est rejeté. Toute action qui n'est pas légiférée par le prophète, hein, que tu ne retrouves pas dans une preuve dans le Coran, la Sunna, sur la compréhension des Sahaba, elle est quoi? Elle est rejetée. Et c'est ce qu'on appelle une bid'a. Et si vous voulez une définition de la bid'a, une des meilleures que le Mashaykh donne, c'est celle de l'imam Shatibi rahimahullah dans son livre l'I'tisam. Et Cheikh il dit, celui qui fait une action sans qu'elle ne soit légiférée, son action est rejetée. Ainsi que sa parole. Car toute chose nouvelle dans la religion est une innovation. On l'a dit tout à l'heure dans Khutbat al-Hajjah. Et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène à l'enfer. Alors qu'il n'y en a pas un qui vient vous dire, oh, mais akhi, il y a des bid'a hasana, il y a des bid'a sayi'a. Moi, je te dis la parole du prophète, kol, tufidu l'umum, kol bid'atin. Et toi, tu viens faire un taqsim. Il est où ton dalil? Il y a des bonnes bid'a, et il y a des mauvaises bid'a. Le prophète, il a dit, kol, hein? Kol, quoi? Vous êtes avec moi, Yak, hein? Yani, toute bid'a est un égarement. Et tout un égarement est quoi? Naam. Et toi, tu viens me dire, non, il y a des bonnes, il y a des mauvaises, là. Faire attention à ce genre de discours-là. Et ça implique beaucoup de choses. Et les ulama, ils ont prouvé ça. Le fait de dire que tu y as une bonne bid'a dans la région, c'est-à-dire que tu accuses le professeur de ne pas avoir donné le message comme il le faut. Et les ulama, ils disent que tout ce qui accepte le rajout, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas complet. Ça, oh là là. Or Allah, qu'est-ce qu'il y a dans le Coran? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam madina. Et toi tu viens dire non, il y a des choses qui sont bonnes. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous en a pas parlé. Il n'a pas su? Attention à ce que tu dis. Non, il a su, alors il ne l'a pas dit? Attention à ce que tu dis. Retournez aux paroles des grands imams de la communauté comme l'imam Malik rahimahullah, il y a des très belles paroles sur ce sujet-là. On a dit quoi? Et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène à l'enfer. Ceci nous amène à la règle suivante. C'est la quantième? La sixième. La qaïda tu sadisa. Al-tara'iq allati yuhdithuha al-nas wa yaz'umun annaha tuzakkir nufus fahiya fil haqiqati la tuhaqiqu lahum tazkiyatan. Le titre, c'est quoi du sixième, la sixième règle? Et ça dépend, ça découle plutôt de la cinquième, qui est quoi? C'est le suivi, et qu'il n'y a pas d'autre voit que la voix du prophète, hein, et le suivi du prophète dans la purification de l'âme, eh bien c'est les voix que les gens innovent et dont ils prétendent qu'elles purifient l'âme, ne leur permet pas en réalité de purifier leur âme. Tu purifies ton âme dans le bid'a, hein? C'est pas possible ça. Et regardez, écoutez ce qu'il dit le cheikh ici. بَلْ لَا تَزِيدُهُمْ عَنِ التَّزْكِيَةِ إِلَّا بُعْدًا فَالطَّرَائِقُ الْمُحْدَثَةَ وكثيرا ما تخترع عبر التاريخ بدع واهواء يدعي اربابها ومحدثوها انها تزكي النفوس وان النفوس انما تزكو بها. Il dit, mais de plus, elles ne font que les éloigner de cette purification. Les voies qui sont innovées sont nombreuses au cours de l'histoire. Pour les frères qui étudient un peu l'histoire de l'islam, hein, l'histoire des communautés, vous allez voir comment elles sont nombreuses, les innovations, quand elles ont commencé, etc. Hein? En sachant, les croix, que le hadith qu'on a dit, kulla muhdathatin bid'a, etc. Le prophète Sassam disait ça quand? Il y avait des bid'a à son époque. Il n'y a peut-être pas un sermon, rarement, il délaissait cette khutbat al-haja. Pour montrer la mise en garde sur les innovations. Et donc, évidemment, sur les gens qui font les innovations. Puis, cher, il dit, des innovations et des passions de ceux qui les ont inventées prétendent qu'elles purifient leur âme. Et que leur âme ne peut être pure qu'au moyen de ces voies innovées. Puis Cheikh donne des exemples. Il dit, فَهَذَا يَدْعُ إِلَى خُلْوَةٍ فِي مَكَانٍ مُظْلِمٍ يَنْقَطِعُ فِيهِ الْإِنسَانِ عَنِ الْجُمَعِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْعِلْمِ وَالتَّعَلُّمِ وَيُرَدِّدُ كَلِمَاتٍ تُمْلَى عَلَيْهِمْ بَلْ أَحْيَانًا كَلَامًا يُرَدِّدُهُ لَا مَعْنَى لَهُ يُرَدِّدُهُ أَيَّامًا طَوِيلَةً يُزْعُمُونَ أَنَّهُ بِمِثْلِ هَذِهِ الْخُرَافَاتِ وَالضَّلَالَاتِ يُزَكِّي نَفْسَهُ وَلَقَدْ تَلَاعَبَ الشَّيْطَانُ بِأَقْوَامٍ فِي هَذَا الْبَابِ تَلَاعُبًا عَجِيبًا. Écoutez ce que dit le Cheikh ici. Il dit, certains appellent à s'isoler dans un endroit sombre, coupé des gens. Hein? Chez nous, en Angleterre, on en a beaucoup. Hein? Il y en a même certains, ils n'ont rien à voir avec le Maroc, ils disent, on aime bien aller au Maroc là-bas. Hein? Il y a des bonnes chambres sombres et tout. Hein? etc. On se sent bien, après on retourne à Dunya, le Ma'asi, etc. Mais moi pendant un certain temps, on zikki, on purifie les âmes. Avec le bid'a, c'est pas possible ça. Hein? Certains appellent à s'isoler dans un endroit sombre, couper des gens. Des prières du vendredi, des prières en groupe, de la science et de l'apprentissage. Il y a toutes des choses qui sont quoi? C'est là qu'on va trouver la purification de l'âme. Hein? S'isoler et répéter des paroles qui leur sont dictées. Parfois même, ils répètent des paroles qui n'ont aucun sens pendant longtemps. Ils prétendent qu'avec ces égarements et ces fables, ils purifient leurs âmes. Et Cheikh dit, Shaitan se joue de ces gens. Puis il rapporte une belle parole de l'imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah. Il dit, وَقَدْ فَصَّلَ فِي هَدَ الْبَابِ تَفْصِيلًا وَاسِعًا Ibn al-Jawzi, rahimahullah, ta'ala, fi un livre que vous connaissez sûrement, Telbis, hein, Iblis. وَذَكَرَ فِي هَدَ الْبَابِ عَجَائِبُ وَغَرَائِبُ مِنْ تَلْبِيسِ إِبْلِيسِ عَلَى الصُّوفِيَّةِ وَكَيْفَ أَنَّهُ أَدْخَلَهُمْ فِي مُنْزَلِقَاتٍ خَطِيرَةٍ جِدًّا مِنْ بَابِ تَزْكِيَةِ النُّفُوسِ وَهِيَ أَعْمَالٌ لَا تَزِيدُ فَاعِلَهَا عَنْ تَزْكِيَةِ النَّفْسِ إِلَّا بُعْدًا. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il a détaillé de manière précise ce sujet dans son livre Telbis Iblis. Hein? Telbis Iblis. Il a cité dans ce registre des choses étonnantes concernant Shaitan et comment il dupe, il trompe les soufis et comment il les a fait entrer dans des choses dangereuses. Au nom de quoi? Toujours encore une fois, la purification des âmes. Alors que ces actions ne font que les éloigner plus de la purification des âmes. Après la sixième règle, c'est quoi? Hein? Si il est tard, mais on va essayer de... Je veux que j'aille un peu vite, c'est pour pas que ce soit trop long pour vous. On a presque fini, inshallah. Al-qa'idatu al-sabi'a, ahamiyatu al-wasatiyatu al-i'tidal fi babi al-tazkiya. Et ça fait partie des fondements des gens de la sunnah. C'est la voie du juste milieu, toujours entre deux extrêmes. Les gens de la sunnah que vous allez lire dans l'aqidah, dans l'ibadah, dans tout, c'est toujours la voie du juste milieu. Entre l'extrémisme et quoi? Le laxisme. Mais le wasatiyya, hein? C'est pas comme on essaie de faire entendre dans la presse et sur certains pseudo-spécialistes de l'islam, c'est l'islam des modérés. Hein? C'est quoi la modération pour eux? C'est peut-être celui qui ne pratique pas du tout. Hein? Non. La modération, le juste milieu, c'est dalil. C'est « qala Allah, qala Rasulullah, qala Sahaba ». C'est ça, la modération, c'est ça le juste milieu. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Et si quelqu'un est sur ce quoi Allah il a légiféré, il peut être ni extrémiste, ni laxiste. Parce que les deux extrêmes sont blâmables. Et la seule voie de la vérité, c'est la voie du juste milieu. Il dit l'importance d'être sur le juste milieu équilibré au sujet de la purification, la tazkiyah. Et puis il cite un verset du Coran. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Ça c'est une preuve que quoi? Nous avons fait de vous une communauté de justes. Hein? Wasat, le milieu, le juste milieu. Surat al-Baqarah, verset 143. Et puis, c'est un vers de poésie, pour les frères arabophones, ils peut-être le mémoriser. وَخِيَارُ الْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا لَا تَفْرِيطُهَا وَلَا إِفْرَاطُهَا. Les meilleures des affaires sont celles du juste milieu, sans verser dans le laxisme ni l'extrémisme. فَالْوَسَطِيَةُ فِي هَدَ الْبَابِ وَفِي كُلِّ بَابِ مَطْلُوبَةٌ وَلَا بُدَّ مِنْهَا فَإِذَا دَخَلَ الْإِنسَانِ فِي أَبْوَابِ الْعِبَادَاتِ لِيُزَكِّيَ نَفْسَهُ في باب الأخلاق يزكي نفسه عليه أن يكون في ذلك وسطا والوسطية تعني لزوم الحق بل يجمع الوسطية قول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا والحديث متفق عليه وخذ مثال لذلك يوضحه ويقربه. Donc Cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici toujours dans la septième règle, qui est quoi? L'importance du juste milieu dans la tazkiya, dans la purification des âmes. Il dit, les meilleures des affaires sont celles du juste milieu sans verser dans le laxisme ni dans l'extrémisme. Le juste milieu est voulu à ce sujet et à tous les sujets de la religion. Et l'équilibre est obligatoire. Si un individu veut faire des adorations pour purifier son âme ou par les bons comportements, il se doit d'être sur le juste milieu. Et al-wasatiyya, le fait d'être sur le juste milieu veut dire s'attacher à la vérité. Ceci est compris dans la parole du prophète alayhi salatu wasalam, qui est laquelle? Cette didou, vous pouvez la mémoriser, elle est très courte. Cette didou, wa qaribou, wa abshirou. Et puis, Cheikh, il dit, il va donner un exemple qui va illustrer cela, parce que c'est un peu difficile à traduire en français, mais on va l'illustrer avec un exemple, et puis on va traduire, inshallah. Il dit, Rami al-sahm ila al-marma. Ma huwa al-sadad fi rami al-sahm ila al-marma. An yusib al-marma bi'aynihi. Wa al-muqaraba an yarmi al-sahm ila jihati al-marma, fayakunu mada? قريبا منه. لكن من لا يأخذ السهم أصلا ولا يرميه، أو يأخذ السهم ويعطي المرمى ظهره ويرمي إلى جهة أخرى، هل هؤلاء أهل سداد أو أهل مقاربة؟ لا، فأهل السداد والمقاربة الذين يصيبون السنة، أو الذي يعمل جاهدا ليصيب السنة فيكون قريبا منها. ولكل منهما بشارة، قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا وأبشروا، سيصل بشارة إسي. فأهل السداد لهم بشارة، وأهل المقاربة أيضا لهم بشارة، والحمد لله. شيخي دون ان اكزامبل، il dit un exemple qui illustre ce hadith et qui vous l'explique. Il dit maintenant, tirer une flèche vers une cible. Quel est ce qu'on appelle en arabe sadad, hein, saddidou, et le muqaraba wa qaribou. Sadad, c'est le fait de tirer dans une flèche, avec une flèche, pardon, vers une cible, et c'est de toucher quoi? La cible elle-même. Hein? C'est comme si tu touchais le mille. D'accord? C'est ça, sadad. L'exactitude, si tu veux. Tu touches la cible elle-même. Et le muqaraba, c'est quoi? En arabe, on peut déjà un peu comprendre. C'est quoi le muqaraba? C'est de sang. Sans rapprocher. C'est tirer une flèche vers la cible et que la flèche soit proche. C'est-à-dire que tu fais ton possible pour toucher la cible, mais tu te rapproches le plus possible. C'est didou, wa qaribou, wa abshirou. Puis Cheikh il dit, tandis que celui qui ne tire pas de flèche du tout, laissez même pas lui. Hein? Ou tire une flèche, mais laisse la cible derrière lui. La sunna elle est là, hein? Et lui il tire de ce côté-là. Ou tire dans une autre direction que la cible. Est-ce que ceux-là font partie de Ahlul Sadad, ou même ceux-là, hein? C'est-à-dire ceux-là qui touchent la cible elle-même, ou Ahlul Muqaraba, les gens de Muqaraba, ceux qui s'en rapprochent? Ils font partie d'aucun des deux. Cheikh dit non, ceux qui sont Ahlul Sadad et Ahlul Muqaraba, ce sont ceux qui sont conformes à la Sunnah. Vous comprenez le fait de toucher la cible elle-même? Ou celui qui fait tout son possible pour arriver à la Sunnah et arrive proche d'elle. Tu fais ton possible, hein? Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'aide. Mais Cheikh, il dit quoi? Et pour chacun des deux, ou chacune des deux catégories de gens, il dit quoi? Il y a une bichara. Ce qu'on appelle une bichara en arabe, c'est quoi? Une bonne nouvelle. Walhamdulillah. Puis Cheikh, il dit: أمد الذي يدير للسنة ظهره ولا يرفع بالسنة رأسا ولا يبالي بها بل يتبع هواه ويبتعد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهداه فهذا ما أبعده عن الوسطية فالتزكية وسطية واعتدال. Il dit, tandis que celui qui tourne le dos à la sunna, il n'y donne pas d'importance. Mais en plus, suit ses passions, l'a'idhu billah. Et s'éloigne de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et de sa guidance. Celui-là est très loin de la voie du juste milieu. On avait dit que quoi? Les passions, c'est un des quatre ennemis, parmi les plus grands ennemis des musulmans. Il y en a beaucoup des ennemis des musulmans, mais les ulama, ils disent qu'il y en a à leur tête quatre. Shaitan, al-nafs, al-hawa, les passions. Hein? Et dunya. Puis, Cheikh, il termine ce point-là. Ou cette règle-là qui est quoi? La purification et donc l'équilibre et le juste milieu. Huitième règle. Il dit: التزكيه تخليه وتحليه ولا يكون العبد متزكيا الا بهما. Il dit: la purification ne peut se faire que par التخليه والتحليه. Ça c'est encore des termes qu'on peut pas traduire de manière linguistique tout simplement comme ça. Il faut revenir au sens, à l'origine de ces mots-là et expliquer qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là dans la religion. Et Cheikh il dit: on va نرجع الى اصل مدلول هذه الكلمه في اللغه وكذلك معناها في الشرع في ضوء دلاله النصوص يدرك ذلك. فالتزكيه تخليه وتحليه، تخليه للنفس من الرذائل وتحليه لها بالخيرات والفضائل، هذه التزكيه. واصل معناها في اللغه النماء والطهاره، اي الزياده في الخيرات. والطهارة أي التخلي من الآفات والسيئات والمنكرات. من أي فكوة؟ في نتيجة مول من مول تزكية. ها؟ أن تزكي نفسك. كيف سوف يقول المول تزكية؟ دو سافيا المول تزكية الفرب زكا زكا يزكي تزكية. Il dit: la purification ne peut se faire que par التخلي والتحلية. Celui qui retourne au fondement, la base de ce qu'indique ce mot dans la langue arabe, ainsi que son sens dans la législation islamique à la lumière des textes, comprend cela. La purification, التزكية, c'est une تخلية et une تحلية. C'est-à-dire que l'âme, التخلية, hein, l'âme abandonne les vices. Et تحلية, qu'elle se pare de bonnes choses et de vertus. Hein, le mot arabe pour les bijoux, c'est quoi? الحولي, hein, سهل الله, hein. أن تتحلى, ou bien أن تتحلى بالأخلاق الفاضلة. Que tu te pares de quoi? de beaux comportements. Al-takhliya, c'est quoi? Le fait de se... Hein, d'abandonner les vices, si vous voulez, même de se purifier. Et al-tahliya, c'est quoi? Le fait de se parer des bonnes choses et des vertus. Ceci, la purification. C'est-à-dire que tu as besoin de quoi? Des deux. Tu ne peux pas faire l'un sans l'autre. Et il dit maintenant son origine linguistique. Linguistique, c'est-à-dire de la purification de tezkiya. Ça vient du mot, tezkiya en arabe, al-nama wa tahara. Al-tahara, c'est l'abandon, la pureté de tout péché, de toute turpitude. Al-nama, c'est accroître, augmenter le bien. Vous comprenez maintenant tahliya wa tahliya? C'est-à-dire, al-tahara, que tu t'abandonnes, tu te purifies, tu sois pur de tout péché, de toute turpitude. Et al-nama, c'est d'accroître et augmenter le bien. Wa il dit, وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَا التَّزْكِيَةَ تَحْلِيَةٌ بِالْفَضَاءِ الْآيَةِ الَّتِي بَدَأْنَا بِهَا وَيَقُولُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى فَالذِّكْرُ وَالصَّلَاةُ وَعُمُومُ الطَّاعَاتِ تُزَكِّي النُّفُوسِ. Regardez le fahm des ulama du Coran. Nous, comme on lit ces versets-là, hein, et on ne comprend pas ce genre de... C'est une des plus grandes preuves qu'on ne peut pas comprendre. Encore une fois, deux extrêmes ici. Et un juste milieu avec les ulama. Il y a un extrême. Si, hein, comme les mourides chez le soufia, si le cheikh dit quelque chose, même si c'est contraire au Coran à la Sunna, c'est ça le haq. C'est-à-dire, le cheikh, c'est lui l'asl. C'est un autre extrême, les indépendants, là, hein. Nous, on comprend le Coran à la Sunna, mais on n'a pas besoin des ulama. Je parle pas des indépendants dans le tijara, hein, que vous compreniez pas, hein. On est des indépendants de la compréhension de la religion. Ils prennent pas des ulama du tout. Et puis, les gens de la Sunna, encore une fois, au milieu. Ils prennent des ulama de la Sunna, mais avec dalil. Et ce qui est contraire au dalil, on délaisse, on laisse de côté, on prend dalil. Donc l'importance de revenir ulama, on ne comprend pas, même des versets comme ça, on ne peut pas les comprendre correctement. Puis Cheikh il dit, كُلُّ طَاعَةٍ يَتَقَرَّبُ بِهَا الْعَبْدِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَهِيَ تَزْكِيَةٌ لِنَفْسِهِ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّخَلِّي عَنِ الْمُنْكَرَاتِ وَالْبُعْدِ عَنْهَا دَاخِلٌ فِي بَابِ التَّزْكِيَةِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فروجهم ذلك أزكى لكم أزكى لهم أزكى encore une fois le mot quoi أزكى pur c'est plus pur إن الله خبير بما يصنعون. Donc cher, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit ce qui indique que la purification c'est de se parer de bonnes choses. Ben vous connaissez déjà la preuve, c'est le verset par lequel on a commencé ce cours dans la traduction du sens dans sourate Al-A'la. Quoi? Réussit certes celui qui se purifie et se rappelle le nom de son Seigneur puis célèbre la prière. Le rappel dhikr est quoi? La prière salah. Donc l'invocation, la prière et toutes les obéissances purifient l'âme. Chaque adoration par laquelle le serviteur veut se rapprocher de son Seigneur est une purification pour quoi? Pour son âme. Et ce qui indique que l'abandon des vices, hein, et des turpitudes, ah, comme salam, et s'en éloigner, entre dans la purification de l'âme, eh bien c'est la parole d'Allah, dont la traduction du sens est dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Hein, et si il commence à faire chaud, etc., dans ce genre de pays, vaut mieux baisser le regard. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Surat al-Nur, verset 30. Puis, Cheikh, il termine ce point en disant, فَبُعْدُ الْإِنسَانِ عَنْ مَنَهَا اللَّهُ عَنْهُ هَذَا دَاخِلٌ فِي بَابِ تَزْكِيَةِ النَّفْسِ وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Termine cette huitième règle qui est l'avant-dernière. Le fait que l'individu s'éloigne de ce qu'Allah a interdit, ça entre dans quoi? Dans la purification de l'âme. Et c'est pour cela qu'il est dit, c'est plus pur pour eux qu'ils baissent leurs yeux et qu'ils gardent leur chasteté. Cela est quoi? Plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Neuvième et dernière règle, أَهَمْيَتُ تَذَكُّرِ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْ يَكُونَ نَصْبَ عَيْنِ الْإِنسَانِ. Subhanallah, je ne l'ai pas fait exprès, hein, mais la boucle est bouclée, on revient au premier dars. كُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ عَلَى ذِكْرٍ لِهَذَا الْيَوْمِ يَوْمِ الْحِسَابِ يَوْمَ الْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعَانَ ذَلِكَ عَلَى تَزْكِيَةِ نَفْسِهِ وَقَدْ مَرَّ مَعَنَا فِيمَا سَمِعْنَاهُ مِنْ آيَةِ قَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّنْ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِالْيَمِينِ إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية فكلما كان العبد مستصحبا هذا الظن المبارك والاعتقاد العظيم وأنه سيحاسب وأنه سيلاقي الحساب من سيقف بين يدي الله جل وعلا، وأن الله سيحاسبه على أعماله التي قدم في هذه الحياة. كلما أراد أن يخطو خطوة لعمل لا يرضي الله تذكر أن الله سيحاسبه على هذا العمل. C'est ça الثمرات. Notre croyance elle a des fruits. Et c'est ça les fruits de la croyance. وأنه سيقف أمام الله جل وعلا ويجزى بما قدم فيمنعه ذلك ويحجزه بإذن الله تبارك وتعالى عن الرذائل ويسوقه إلى ماذا؟ إلى العكس، إلى الفضائل. Il finit Cheikh عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى par cette neuvième règle, et c'est la dernière règle qu'on va citer aujourd'hui parmi les règles de la purification de l'âme, l'importance de se rappeler le jour dernier et qu'il soit toujours à notre esprit. Au plus l'individu se rappelle ce jour, quel jour? Le jour du jugement. Le jour où les gens seront devant leur Seigneur. Au plus cela l'aidera à purifier son âme. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, j'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira d'une vie agréable. Surat al-Haqqa, verset 20-21. Cheikh, il dit un point important ici, et on va terminer là-dessus, inshallah. Tant que le serviteur a cette bonne pensée et cette importante croyance, qu'il va être jugé et qu'il trouvera son jugement et qu'il sera devant son Seigneur subhanahu wa ta'ala et qu'Allah le jugera sur ses actions qu'il a faites dans cette vie. Chaque fois qu'il voudra faire un pas pour faire une action qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala, il se rappellera qu'il va rendre des comptes. Et c'est même si tu es tout seul. Parce que c'est facile de craindre Allah quand tu es avec les frères, machallah, le masjid, kada, etc. Hein? Mais quand tu es tout seul en khalwa, hein? C'est là que tu te rappelles Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est là que tu te rappelles le jugement. Et c'est cette croyance-là qui t'aide à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ne pas faire ce qui va, hein, attirer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite à tous. Il dit, et sera jugé sur cette action, et qu'il se tiendra devant Allah subhanahu wa ta'ala, et sera récompensé en fonction de ses actions. Cela l'empêchera de faire cette action. Et le préservera des vices avec l'aide d'Allah. Elle le poussera vers les bonnes choses. Que tu sois chez toi tout seul dans ton appartement, dans ta voiture, dans un coin, à droite ou à gauche, Allah il sait tout, il en voit tout, et il voit tout, subhanahu wa ta'ala. Inna Allah sami'un basir. Ya'lamu sirra wa akhfa. Où tu vas te cacher? De qui tu vas te cacher? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que la traduction du sens de la parole d'Allah dit, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت نفس ويلم النفس سي ما قدمت لغد. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Oh vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Surveillé par des anges rudes, durs. Hein? De Surat al-Hajr. Oh, vous qui croyez, craignez Allah, non, ça rien. Oh, vous qui croyez, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Hein? Et ça illustre bien ce qu'il disait le Cheikh ici. Demain, cette croyance, au jour de l'un, à l'au-delà, au jour du jugement dernier. Surat al-Hajr, verset 18. Et un autre verset dans la traduction du sens est, oh, vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Imaginez-vous ça. Hein? Surveillez par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah subhanahu wa ta'ala, en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Surat al-Tahrim, verset 6. Et puis le Cheikh il dit, وَمِنْ أَوَاخِرِ مَا نَزَلَ عَلَى نَبِيِّنَا عَلَيْهِ صَلَاتُ وَالسَّلَامِ بَلْ قِيلَ هُوَ آخِرْ مَا نَزَلَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فاذا كان العبد على ذكر لهذا اليوم وهذا القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى فان هذا باذن الله عز وجل يحفزه الى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل وهذه هي حقيقه التزكيه. شيخ الدي pour terminer ce cours il dit et parmi les derniers versets révélé à qui? Au prophète, alayhi salatu wassalam. Il a même été dit, Il a même été rapporté que c'est ce qui a été révélé en dernier au prophète alayhi salatu wassalam, celui dont la traduction du sens est « Et craignez le jour. » Quel jour? Où vous serez ramenés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis. Et ils ne seront point lésés. Surat al-Baqarah, verset 281. Puis Cheikh il dit, donc si les serviteurs se rappellent constamment ce jour et cette position devant Allah subhanahu wa ta'ala, ceci avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala va l'inciter à se parer des bonnes choses et à abandonner les vices, et ceci est la vraie purification. Et le Cheikh il termine par une doua, et on va terminer par cette doua inshallah. Allahumma ati nufusana ajma'in taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha wallahu a'lam wa sallallahu sallam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et je voudrais vous remercier pour votre accueil et pour votre bon soupçon. C'est toujours un plaisir de revenir à Majid Salam, hein, et de voir les frères qu'on n'a plus vus depuis longtemps. Qu'Allah vous récompense par le Firdaus al-A'la. Wa jazakumullahu khaira.